Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Psachim, page 19, Daf Yud Tet. Bonne écoute et bon limoud.
Bechol tamé, chaque chose impure, lo yachel ne sera pas mangé. Et la Gemara nous dit, milo askinan, nedenaga becheni, ne parlons-nous pas que cette viande a touché, de cette viande sainte a touché de l'impureté au second degré, et donc puisqu'elle a touché de l'impureté au second degré, on n'aura pas le droit de la manger car elle-même est impure. Donc de ce verset, nous apprenons explicitement que de la nourriture sainte peut devenir impure au troisième degré. Donc pourquoi avons-nous besoin d'un raisonnement a fortiori de quelqu'un qui n'a pas encore amené son sacrifice expiatoire? Alors de là, nous disons que ce raisonnement a fortiori révi mikal vachomer kedamrinan. Que de ce raisonnement a fortiori, nous apprenons qu'il existe une impureté aussi au quatrième degré, comme nous l'avons dit. Et donc, en fait, en conclusion, Rabbi Yossi nous dit que nous apprenons du dvoulium d'une personne qui s'est purifiée le jour même que la trouma est impure au troisième degré. Car le dvoulium, lui, a le droit de manger de la nourriture profane, mais n'a pas le droit de manger de la trouma. Donc, l'impureté au second degré, qui rend impropre à la consommation la nourriture profane, c'est à plus forte raison que ça rend impropre à la consommation la trouma, et que ça fait pas seulement que ça rend impropre à la consommation, car c'est impur, mais ça aussi fait passer l'impureté. Donc, dans la trouma, l'impureté passe jusqu'au troisième degré. Et puisque l'impureté passe jusqu'au troisième degré, de là, nous apprenons que la nourriture sainte peut avoir de l'impureté jusqu'au quatrième degré. Comme nous l'avons vu, par un raisonnement, a fortiori, de Mechoussar Kippourim, quelqu'un qui n'a pas amené son sacrifice expiatoire. Si déjà quelqu'un qui n'a pas amené son sacrifice expiatoire a le droit de manger de la trouma, mais n'a pas le droit de manger de la nourriture sainte, alors l'impureté au troisième degré, qui rend impropre à la consommation la trouma, n'est-ce pas, à plus forte raison que ça rendra impropre à la consommation la nourriture sainte, et pas seulement impropre à la consommation que l'on n'aura pas le droit d'en manger, mais que cela fait aussi passer l'impureté, et donc ça fait passer l'impureté du troisième au quatrième degré, et donc il existe une impureté au quatrième degré à propos de la nourriture sainte. La Gemara nous dit maintenant, « Vis al kadatar savar ke Rabbi Akiva, et si tu penses que Rabbi aussi pense comme Rabbi Akiva, ninenami revi betruma vechamishi bekodesh, on aurait dû enseigner qu'il existe aussi une impureté au quatrième degré à propos de la trouma, et une impureté au cinquième degré à propos de la nourriture sainte. Pourquoi ? Étant donné que Rabbi Yossi, toute la base de son raisonnement a fortiori est qu'il existe une impureté au troisième degré à propos de la trouma. Mais cela, comment il a appris? Il a dit par un raisonnement a fortiori de dvoulium de quelqu'un qui s'est purifié le jour même. Et ce raisonnement a fortiori nous dit, si déjà un dvoulium, quelqu'un qui s'est purifié le jour même, a le droit de manger des choses profanes, mais n'a pas le droit de manger de la trouma, alors l'impureté au second degré qui rend impropre à la consommation les choses profanes, n'est-ce pas, à plus forte raison que ça rend impropre à la consommation la trouma. Or, si Rabbi Yossi pense, comme Rabbi Akiva, qu'il existe une impureté au troisième degré dans les choses profanes, alors nous pouvons faire un raisonnement a fortiori avec une impureté au troisième degré et dire, si déjà le dvoulium a le droit de manger des choses profanes, qui a le droit de manger des choses profanes, n'a pas le droit de manger la trouma, alors, l'impureté au troisième degré, qui rend impropre à la consommation les choses profanes, suivant l'avis de Rabbi Akiva, n'est-ce pas à plus forte raison que cela rend impropre à la consommation la trouma, et pas seulement que ça rend impropre, mais que ça fait passer l'impureté. Et donc, il existe une impureté au quatrième degré dans la trouma, d'après ce raisonnement. Or, s'il existe une impureté au quatrième degré dans la trouma, la nourriture sainte a toujours un degré de plus, comme nous l'avons vu grâce au raisonnement a fortiori. Et donc, à propos de la nourriture sainte, il existe une impureté au cinquième degré. Et Rabbi Yossi n'a pas dit une chose pareille. Il a dit qu'il existe juste une impureté au troisième degré à propos de la trouma et une impureté au quatrième degré à propos de la nourriture sainte. Et non pas une impureté au quatrième et au cinquième degré. Donc ça, c'est le fait que Rabbi Yossi a dit qu'il existe une impureté que au troisième et au quatrième. Cela prouve qu'il n'est pas d'accord avec l'enseignement de Rabbi Akiva qui nous dit qu'il existe une impureté au troisième degré à propos de la nourriture profane. Nous avons fini ici le shiur de Daf Yud Tet. Nous commençons ici, Be'ezrat Hashem, le shiur de Daf Yutet. Nous avons vu dans le shiur précédent que Rava nous dit que ni Rabbi Yossi ne pense comme Rabbi Akiva, ni Rabbi Akiva ne pense comme Rabbi Yossi. Dans le shiur précédent, nous avons expliqué pourquoi Rabbi Yossi ne pense pas comme Rabbi Akiva. D'où le savons-nous? Dans ce jour-ci, la Gemara maintenant va continuer et va expliquer pourquoi Rabbi Akiva ne pense pas comme Rabbi Yossi. Nous allons l'expliquer. Comme nous l'avons vu plus haut, Rabbi Yossi apprend qu'il existe une impureté au troisième degré dans la Trouma par un raisonnement a fortiori. Si déjà le Tvoulium, une personne qui s'est purifiée le jour même, n'a pas le droit de manger la Trouma et a oui le droit de manger les choses profanes, alors l'impureté au second degré qui rend impropre à la consommation les choses profanes, n'est-ce pas à plus forte raison que ça rendra impropre à la consommation la Trouma, et pas seulement que ça rendra impropre à la consommation, mais que ça fera passer aussi passer l'impureté. Et donc, puisque l'impureté passe, alors elle passe du second degré au troisième degré. Puis, Rabbi Yossi apprend avec un deuxième raisonnement a fortiori que dans la nourriture sainte, il existe une impureté au quatrième degré. Comment? Si déjà le Mechoussar Kippourim, c'est-à-dire une personne qui s'est purifiée mais qui n'a pas encore amené son sacrifice expiatoire, a le droit de manger de la terouma mais n'a pas le droit de manger de la nourriture sainte, alors l'impureté au troisième degré qui rend impropre à la consommation la terouma, n'est-ce pas à plus forte raison que cela rendra impropre à la consommation la nourriture sainte? Et pas seulement que cela rendra impropre à la consommation, mais que cela fera passer l'impureté. Et donc, il y aura une impureté au quatrième degré dans la nourriture sainte. Et nous avons expliqué que d'ici, il y a une preuve que Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Car si Rabbi Yossi est d'accord avec Rabbi Akiva, qu'il existe une impureté au troisième degré dans la nourriture profane, alors nous pouvons dire le premier raisonnement a fortiori que nous avons dit aujourd'hui, d'une autre façon, au lieu de le faire avec une impureté au second degré, on le fait avec une impureté au troisième degré. Et à ce moment-là, on apprendra qu'il existe une impureté au quatrième degré à propos de la Trouma. Et s'il existe une impureté au quatrième degré à propos de la Trouma, alors il existe une impureté au cinquième degré à propos de la nourriture sainte. Et donc, puisque Rabbi Yossi n'a pas dit qu'il existe une impureté au quatrième et au cinquième degré, mais que troisième et quatrième degré, c'est sûr qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva qu'il existe une impureté au troisième degré à propos de la nourriture profane. Maintenant, la Gemara nous dit que même Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Rabbi Yossi sur ses raisonnements a fortiori. Car si Rabbi Akiva était d'accord avec Rabbi Yossi sur ses raisonnements a fortiori, étant donné que lui pense qu'il existe, oui, une impureté au troisième degré dans la nourriture profane, alors avec ses raisonnements a fortiori, on apprend qu'il existe une impureté au quatrième degré à propos de la Trouma et une impureté au cinquième degré à propos de la nourriture sainte. Or, nous n'avons jamais entendu une chose pareille. Et donc, c'est que de là nous apprenons que Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec ses raisonnements a fortiori. Et c'est ce que la Gemara nous dit maintenant. Nous sommes Daf Yutet Amud Aleph, quatrième ligne. La Gemara nous a dit que nous avons donc déjà prouvé que Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Et là, Rabbi Akiva, lo savoir que Rabbi Yossi minalan, mais que Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Rabbi Yossi, d'où l'apprenons-nous? Amarle, alors il lui a dit, de lo lishtamitana, velidne revi betruma, vechamishi bakodesh. Car nous n'avons pas trouvé de Tana qui enseigne qu'il existe une impureté au quatrième degré à propos de la Truma, et au cinquième degré dans la nourriture sainte, comme nous l'avons, et d'après Rabbi Akiva, s'il est d'accord avec Rabbi Yossi, comme nous venons de l'expliquer, ça devrait oui exister. Veneima Rabbi Akiva, donc Okatana a dit une chose pareille et a dit que c'est l'avis de Rabbi Akiva. Et donc, puisque Okatana a dit une chose pareille, nous disons que Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Rabbi Yossi. Agma demande, Vernan, Ari Nikum Venismor. Mais nous, on va se reposer donc là-dessus pour dire que Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Rabbi Yossi. Peut-être que Rabbi Akiva est d'accord avec Rabbi Yossi. Et comme il apprend du verset, il existe une impureté au troisième degré à propos de la nourriture profane. Et grâce au raisonnement a fortiori, il apprend qu'il existe une impureté au quatrième degré à propos de la Trouma, une impureté au cinquième degré à propos de la nourriture sainte. Et en fait, personne n'a jamais mentionné l'avis de Rabbi Akiva. C'est-à-dire peut-être que c'est l'avis de Rabbi Akiva, mais qu'il n'a jamais été mentionné. C'est-à-dire le fait que l'habit de Rabbi Akiva n'est pas mentionné, ça ne veut pas dire que Rabbi Akiva ne le pense pas. Ragma nous dit, Nafak Ravashi, Veitema Ravkana, Dak Vashkar. Ravashi est sorti, et si tu veux, il y en a qui le disent au nom de Ravkana, c'est-à-dire il est sorti chercher une preuve, et il a recherché, et il a trouvé. Haditan, ce que nous avons enseigné dans une Mishnah. Hakli, Metzaref, Etma, Shebetocho, la Kodesh, Avalo, Letuma. L'ustensile associe tout ce qui se trouve à l'intérieur, si c'est de la nourriture sainte, mais pas si c'est de la Trouma. Par exemple, quelqu'un qui a un plat, un grand plat, très long, et à chaque extrémité de ce plat, il y a un morceau de viande sainte, sans que ces deux morceaux ne se touchent. Si un des deux morceaux est devenu impur parce qu'un reptile l'a touché, le deuxième morceau devient automatiquement impur. Car l'ustensile, le plat donc, associe les deux bouts et nous disons que c'est tout un seul bout, et même si ça ne se touche pas, ça devient impur. Mais si les deux bouts ne sont pas les deux bouts de nourriture sainte, mais de trouma, alors, dans un cas pareil, ça ne s'associe pas, et seulement un bout devient pur, et pas l'autre bout. Et arrivé, bakodesh, pasoul, vashlishi, batrouma. Et l'impureté au quatrième degré, à propos de la nourriture sainte, est appelée pasoul, mais à propos de la trouma, c'est l'impureté au troisième degré. Comme nous l'avons expliqué plus haut, pasoul, ça signifie que c'est impur, sans rendre impur. Donc, il existe une impureté au quatrième degré, à propos de la nourriture sainte, et pas au cinquième degré, puisque le quatrième est appelé pasoul. Et à propos de la trouma, c'est qu'une impureté au troisième degré, et donc pas au quatrième. Ve'amar priya baraba, amar Rabbi Yochanan, et priya baraba a dit au nom de Rabbi Yochanan, mais de toshel Rabbi Akiva, nishnet mishnazo. Du témoignage de Rabbi Akiva, cette mishnah a été enseignée. C'est-à-dire que ça suit, cette mishnah suit l'opinion de Rabbi Akiva. Et nous allons prouver pourquoi ça suit l'opinion de Rabbi Akiva. Mais du fait que cette mishnah suit l'opinion de Rabbi Akiva, et que dans cette mishnah il est écrit qu'il n'existe qu'une impureté au troisième et au quatrième degré, ça signifie que d'après Rabbi Akiva, il n'existe pas une impureté au quatrième et au cinquième degré. Or, si Rabbi Akiva est d'accord avec les raisonnements a fortiori de Rabbi aussi, il existe, oui, une impureté au quatrième et au cinquième degré. Donc, de fait que Rabbi Akiva a dit que ça n'existe pas, cela prouve qu'il n'est pas d'accord avec les raisonnements de Rabbi aussi. Et maintenant, d'où savons-nous que cette Mishnah suit l'opinion de Rabbi Akiva? Dit-nan, car nous avons enseigné dans une Mishnah. Aussi, Rabbi Akiva a rajouté, c'est-à-dire a dit encore un autre enseignement. Hasolet, vehaketoret, vehallevona, vehagechalim. La solette, la fleur de farine, vehaketoret, ou alors de l'encens, ou alors alevona. Levona, c'est aussi une autre sorte d'encens. Vehagechalim, ou les braises. Si une de ces choses-là se trouve dans un ustensile, she'im nagat vulyom bemiksatan, si quelqu'un qui s'est purifié le jour même, et n'a pas encore fini sa journée de purification, l'a touché, alors il a touché en partie, pasal et koulan, il a rendu pasoul tout ce qui se trouve dans l'ustensile, même ce qu'il n'a pas touché. Car l'ustensile associe tout ce qui s'y trouve à l'intérieur, et donc même s'il a touché une partie, l'autre partie devient aussi impure. Et donc nous voyons que celui qui pense que l'ustensile associe ce qui se trouve à l'intérieur, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Et donc la Mishnah précédente que nous avons citée suit l'opinion de Rabbi Akiva. Et dans cette Mishnah, il est dit, Revi in chamishilo, qu'à propos de la nourriture sainte, il existe une impureté au quatrième degré, et pas au cinquième degré. Et qu'à propos de la trouma, il existe une impureté au shlishi, au troisième degré, in, oui, Revi lo, mais une impureté au quatrième degré n'existe pas. Donc, cela prouve que Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Rabbi aussi. Maintenant, la Gemara revient sur cet enseignement que nous vous venons de dire. Alma Kassava, donc cela veut dire qu'il pense, c'est-à-dire que Rabbi Yochanan qui a dit que cette Mishnah suivait l'opinion de Rabbi Akiva, que Rabbi Yochanan pense, c'est Rouf des Rabbanan, que la loi qui nous dit qu'un ustensile associe tout ce qui se trouve à l'intérieur, c'est une loi d'ordre rabbinique, puisqu'il dit que c'est un enseignement de Rabbi Akiva et non pas une loi de la Torah. Ou pliguer des Rabbanim, et c'est une discussion. Et donc Rabbi Yochanan, lorsqu'il dit une chose pareille, il est en discussion avec Rabbanim. De Amar qui a dit, Sirouf d'Oraïta, la loi qui nous dit qu'un ustensile associe tout ce qui se trouve à l'intérieur, c'est une loi de la Torah. Chez Nehemar, comme il est dit, Kafachat asara zahav melea ketoret. Une coupe de 10 cycles en or pleine d'encens. Et de là, Rabbanim apprend, Hakatuv asa. Le verset a fait tout ce qui se trouve dans cette coupe comme une seule chose. puisque nous avons dit kaf ahat, une coupe. Et donc, tout ce qui se trouve dans cette coupe est considéré comme étant une seule chose. De là, nous apprenons que si une personne impure touche une partie de ce qui se trouve dans une coupe, tout ce qui se trouve dans la coupe devient impur. Maintenant, la Mishnah, la Gemara, continue à nous rapporter une Mishnah qui traite des lois de pureté et d'impureté, mais sans aucun rapport avec ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Nanata, nous avons enseigné là-bas, Al-Machat Shenimtset Bebassar, sur l'aiguille qui a été trouvée dans la chair, Shasakin Vayadaim Torot, que le couteau et les mains sont purs, Vayabassar Tamé, mais la viande est impure. Nimtset Baferesh, si cette aiguille a été trouvée dans les excréments de la bête, Akol Taor, tout est pur. C'est-à-dire, si, lorsqu'on a amené un sacrifice au temple, on a trouvé, après avoir abattu la bête, dans la chair, une aiguille, alors nous disons que la chair de ce sacrifice, la chair de cette bête qui a été amenée, est impure, mais le couteau avec lequel on a abattu la bête et la main du Cohen qui a abattu la bête, c'est, oui, pur. Par contre, si cette aiguille a été trouvée dans les excréments, alors tout est pur. Et la Gemara, maintenant, va expliquer pourquoi c'est impur et pourquoi c'est pur. C'est-à-dire, pourquoi allons-nous craindre que cette aiguille était impure? Et mais si nous le craignons, alors pourquoi ça rend impur que la chair et non pas le couteau et les mains? Et mais auparavant, Amar Rabbi Akiva a dit, Zachinu shen tumat yadayin bamigdash, nous avons un mérite qu'il n'existe pas l'impureté des mains dans le temple. C'est-à-dire que les sages ont décrété que les mains, tout ce qui est une impureté, rend impur les mains au second degré et que les mains. C'est-à-dire même si, par exemple, quelque chose d'impur ne peut pas rendre impur un homme, les sages ont décrété que c'est vrai que ça ne peut pas rendre impur un homme, mais ça rend impur les mains. Et Rabbi Akiva donc nous dit que dans cette Mishnah, nous voyons que cette aiguille rend impur la chair, mais ne rend pas impur les mains du Kohen qui ont abattu la bête. Donc c'est un mérite que les sages n'ont pas décrété que les mains deviennent impures au second degré lorsqu'elles touchent quelque chose d'impur au temple.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et nous passons à la page suivante. Daf Yutet Amudbet. Alors la Gemara demande, Venima She'en Tumat Yadaim Vekelim Bamigdash. Pourquoi Rabbi Akiva ne dit-il pas que nous avons mérité qu'il n'y a pas l'impureté des mains et l'impureté des ustensiles au temple? C'est-à-dire, les sages n'ont pas seulement décrété que les mains deviennent impures, mais ils ont décrété aussi que les ustensiles deviennent impurs. C'est-à-dire, il existe certains cas où, d'après la Torah, quelque chose ne peut pas rendre impur un ustensile, mais ça, ils ont décrété que ça le rend, oui, impur. Et dans ce cas spécifique, comme nous venons de le voir, bien que l'aiguille rend impur la chair, ça ne rend pas impur l'ustensile. Et donc, car les sages n'ont pas fait ce décret dans le temple. C'est-à-dire, même si à l'extérieur du temple, les sages ont décrété que certaines choses peuvent rendre impurs des ustensiles, mais à l'intérieur du temple, ce décret n'existe pas et ça ne rend pas impurs les ustensiles. Et comme nous le voyons, l'aiguille n'a pas rendu impur le couteau. Alors, pourquoi Rabbi Akiva n'a-t-il pas dit que nous avons mérité que le décret de l'impureté des mains et le décret de l'impureté des ustensiles n'existent pas? Alors, Gemara répond, Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda a dit, Amar Rav au nom de Rav, et Amar Rav Yossi Bar Chanina, et si tu veux au nom de Rav Yossi Bar Chanina, Yadaim Kodem Gzerat Kelim Nishnu, le décret de l'impureté des mains a été décrété avant le décret de l'impureté des ustensiles. Et donc, à l'époque de Rabbi Akiva, il n'y avait que le décret de l'impureté des mains. C'est pour ça qu'il n'a parlé que du décret de l'impureté des mains. Amar Rav, alors Rav a dit, il pose une question sur cette réponse, pourtant, ces deux décrets ont été décrétés le même jour, d'Idnan, car nous avons enseigné, et que les sages ont décrété sur certaines choses qui sont impures. Et les voici. Hasefer, les livres, c'est-à-dire tous les livres du Tanakh, lorsqu'ils étaient en rouleau, alors les sages ont décrété qu'ils deviennent impurs. Car à l'époque de la Mishnah, on mettait ces livres avec la Trouma, car on les considérait saints comme la Trouma, et donc, on les mettait avec la trouma, et il y a des petites bêtes, comme des rats, par exemple, qui venaient manger la trouma, et qui, en même temps, mangeaient les livres. Et donc, ça faisait honte aux livres. car ces livres s'abîmaient. Alors les sages ont décrété que tous les livres sont impurs pour pas qu'on les mette en même temps que la Trouma. Vehayadaim, et les mains aussi, les sages ont décrété que les mains sont impures au second degré. Vehatvulium, et quelqu'un qui s'est purifié le jour même. Vehaochrim, vehakelim, shenitmeu bemashkim, et la nourriture et les ustensiles qui sont devenus impurs en touchant un liquide. C'est-à-dire, bien qu'un liquide ne peut pas rendre impur de la nourriture et des ustensiles d'après la Torah, et nous allons d'après le Tana, qui pense que des liquides ne peuvent pas rendre impurs des ustensiles et des kelim et de la nourriture d'après la Torah, mais les sages ont décrété que cela rend, oui, impur. Donc nous voyons que le décret des mains, que les mains deviennent impures, et le décret que les ustensiles deviennent impurs, ont été décrétés le même jour. Alors, comment pouvons-nous dire qu'un a précédé l'autre? Et là, Marava, alors Rava a dit qu'une autre réponse. Hanar retouma tsakin, laissons de côté l'impureté du couteau, c'est-à-dire Rabbi Akiva le laisse de côté et ne le mentionne pas. Car même si ça avait été une bête profane et à l'extérieur du temple, le couteau ne serait pas devenu impur. Pourquoi? Haïsakin de Nagabemai. Ce couteau, qu'a-t-il touché? C'est-à-dire le couteau avec lequel on a abattu la bête. Qu'a-t-il touché? Il ima de Nagabebasar. Si nous allons dire qu'il a touché la chair de la bête qui a été abattue, nous avons une règle qui nous dit que de la nourriture ne peut pas rendre impur un ustensile. Donc, cette chair ne peut pas rendre impur le couteau. Vela de Nagabe Machat. Alors, qu'allons-nous dire? Peut-être que le couteau a touché l'aiguille même. Va en Keli Metamekeli. Il y a une règle qui nous dit qu'un ustensile ne peut pas rendre impur un autre ustensile. Et donc, c'est pour cela que Rabbi Akiva ne parle pas du couteau. Car de toute façon, le couteau n'est pas devenu impur. Mais les mains du Kohen qui ont abattu la bête, si ça avait été une bête profane à l'extérieur du temple, serait, oui, devenu impur. Et donc, c'est pour cela que Rabbi Akiva nous a dit que nous avons le mérite que ce décret n'existe pas au temple. Alors, Gemara demande, maintenant la Gemara revient sur le début de la Mishnah. Haimachat, mayavite. Cette aiguille, qu'en est-il? C'est-à-dire, nous parlons ici et nous disons clairement que l'aiguille rend impur la viande et que si ça avait été à l'extérieur du temple, ça aurait rendu impur aussi les mains du Kohen qui ont abattu la bête, etc. Mais, qu'en est-il? Qui a dit comment? C'est-à-dire, cette aiguille, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi craignons-nous qu'elle soit impure? Alors, nous allons peut-être dire que ça fait que marat. C'est inima, ça fait que marat. Si nous allons dire que c'est un doute, cette aiguille est impure. C'est-à-dire, sur chaque aiguille, on peut avoir un doute, est-ce qu'elle est impure ou est-ce qu'elle est impure? Et donc, du fait qu'on a trouvé une aiguille dans cette bête, alors on se doute, est-ce qu'elle est pure ou est-ce qu'elle est impure? Alors, à cause du doute, on rend impur la viande, mais le couteau, on ne le rend pas impur parce que un ustensile ne peut pas rendre impur un ustensile. Et la main du Kohen, étant donné que c'est dans le temple, alors on ne décrète pas, mais si elle était à l'extérieur du temple, alors d'ordre rabbinique, les mains auraient aussi été impures. Alors, Gemara nous dit, Veit marab Elazar ve Rabbi Yossi bar Chanina. Pourtant, il a été dit, au nom de Rabbi Elazar et de Rabbi Yossi bar Chanina, Chadamar, un de ces deux rabbinim a dit, Lo gazru al safek arokim chez Birushalayim. Il n'a pas été décrété sur les crachats sur lesquels il y a un doute à Jérusalem. C'est-à-dire, il y a une loi qui nous dit qu'une personne qui est zav, une personne qui a eu un écoulement qui provient d'une maladie, cet écoulement le rend impur et la personne est appelée zav. Maintenant, il y a une loi qui nous dit que si cette personne a eu du crachat, a craché par exemple, alors son crachat est lui aussi impur. Son crachat est avatouma, une source d'impureté. Et donc en fait, chaque fois que l'on voit du crachat quelque part, alors on doit se douter, est-ce que cela provient d'un zav ou est-ce que ça provient d'une personne qui est pure? Et donc, si cela provient d'un zav, alors ce crachat est avatouma, une source d'impureté. Si on le touche, on devient nous-mêmes impurs. Mais si cela provient d'une autre personne, alors même si c'est d'une personne impure, si tant qu'il n'est pas zav, ce n'est pas grave, ce n'est pas une source d'impureté, et si on le touche, on n'est pas impur. Donc en fait, sur chaque crachat, il y a un doute. Alors peut-être qu'à chaque fois qu'on va marcher dans la rue sans faire attention, on va marcher sur le crachat, alors on va se mettre en doute, est-ce qu'on est impur ou pas? Alors comme on nous dit, les sages ont décrété que s'il y a un doute sur un crachat à Jérusalem, nous disons que nous ne pensons pas que la personne est impure, mais nous la laissons pure. Ça, c'est un premier décret qui a été dit. Mais Khadamar le second Rav a dit, Lo gazru al safek akelim chez Birushalim, que lorsqu'il y a un doute sur un ustensile à Jérusalem, est-ce qu'il est pur ou impur? Alors sur une telle chose, il n'y a pas de décret, et nous ne le considérons pas impur, mais on le laisse en état de pureté. Et donc maintenant, cette bête qui a été amenée au temple et qu'on a abattue, elle était à Jérusalem, elle est encore à Jérusalem, puisque le temple est à Jérusalem. Donc en fait, il y a un doute, comme nous vous avons voulu l'expliquer, si cette aiguille est pure ou impure. Alors nous disons, à cause de ce doute, on va impurifier la viande. Mais étant donné que nous avons une règle qui nous dit que lorsqu'il y a un doute sur un ustensile, on le garde en état de pureté. Donc même s'il y a un doute sur cette aiguille, on la garde en état de pureté. Et donc puisqu'on la garde en état de pureté, on ne rend pas impure la viande. Donc à nouveau revient la question, pourquoi cette aiguille rend impure la viande? Alors Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Rav Yehuda a dit au nom de Rav, « Kegon she'abdalo machat tmemet » Nous parlons ici d'une personne qui a perdu une aiguille. Et que cette personne était impure car il avait touché un mort. Et donc, lui, il a touché aussi cette aiguille. Donc, il a rendu cette aiguille impure. Ve'kira babassar. Et il a reconnu cette aiguille dans la viande. Donc, en fait, c'est pas un doute, mais c'est sûr que cette aiguille est impure. Et donc, puisque c'est sûr que cette aiguille est impure, elle rend impure la viande. Mais comme nous l'avons expliqué plus haut, elle ne peut pas rendre impure ni le couteau, ni les mains du Kohen qui ont abattu la bête. Rabbi Yossi ben Rabbi Abin Amar, et Rabbi Yossi ben Rabbi Abin dit une autre réponse, que Gon Chaita Para Chasuma, ou Baam Ikot Yerushalayim. Ici, nous parlons d'une vache qui est muselée et qui vient de l'extérieur de Jérusalem. Et le seul décret que nous avons dit, c'est que les ustensiles qui se trouvent à Jérusalem, alors s'il y a un doute, on les considère comme étant purs. Mais les ustensiles de l'extérieur de Jérusalem, s'il y a un doute, alors c'est Safek Touma, et on les considère comme étant, c'est un doute sur une impureté, et donc on les considère comme étant impurs. Or, comme cette bête était muselée, c'est sûr qu'elle n'a pas avalé cette aiguille à l'intérieur de Jérusalem. Donc en fait, c'est un doute sur un ustensile qui provient de l'extérieur de Jérusalem. Dans un cas pareil, nous le considérons impur. Et c'est pour cela que cette aiguille sur laquelle nous avons un doute, alors nous la considérons impure et qu'elle rend impure la chair de la bête qui a été abattue. La Gemara revient maintenant sur ce que nous avons dit. Goufa, justement. Rabbi Lazar et Rabbi Yossi Bar Chanina. Rabbi Lazar et Rabbi Yossi Bar Chanina qui ont chacun dit une chose. Chad Amar, lo gazru al safek arokim, chez Birushalayim, a dit qu'on n'a pas décrété sur les crachats sur lesquels il y a un doute, est-ce qu'ils sont purs ou impurs à Jérusalem. Et Chad Amar et l'autre a dit, lo gazru al safek akelim, chez Birushalayim, qu'on n'a pas décrété sur les ustensiles, si on a un doute ou s'ils sont impurs, qu'ils sont impurs à Jérusalem. Alors la Gemara demande, rokim tanina, kelim tanina. Cet enseignement à propos des crachats, on l'a déjà enseigné. Et cet enseignement à propos des ustensiles, on l'a déjà enseigné. Rokim Tanina, cet enseignement à propos des crachats, on l'a déjà enseigné. Dit-nan, car nous avons enseigné dans une Mishnah. Kol Arokim Animtsaim Birushalayim, tous les crachats qui se trouvent à Jérusalem, Torim, on les considère comme étant purs. C'est-à-dire, on ne considère pas qu'ils proviennent d'un Zav. Chutz Michel Shukalion, à part les crachats qui se trouvent dans le marché supérieur. Car là-bas, c'était l'habitude de toutes les personnes impures de se regrouper. Alors, l'Agmara nous dit, donc nous voyons que dans tout le reste de Jérusalem, on ne décrète pas. Alors, l'Agmara nous dit, répond, l'autre Ichana, nous avons besoin. Afalgav de Itrazek Zav. Pour nous dire que même si on a la certitude qu'un Zav est passé dans cette rue, malgré cela, on n'a pas de doute sur ce crachat. C'est-à-dire, j'aurais pu penser, si on avait juste enseigné la Mishnah, que si c'est un crachat simplement qui a été trouvé dans la rue, alors sur ça il n'y a pas de doute, on les considère comme étant purs. Mais si on est sûr qu'un zav est passé dans cette rue, bien que d'habitude il ne passe pas, mais si on est sûr qu'il est passé dans cette rue, et qu'on a vu un crachat, alors peut-être que dans un cas pareil, on doit oui avoir un doute et le considérer comme étant impur. C'est ce que l'enseignement que nous avons vu au nom de Rabbi Lazar ou de Rabbi Yossi Bar Chanina, que même dans un cas pareil, on le considère comme étant pur. La Gemara continue, nous dit, Kelim Tanina, l'enseignement à propos des ustensiles. Aussi, nous l'avons déjà enseigné dans une Mishnah. Dit-nan, quand nous avons enseigné dans une Mishnah, Kol HaKelim HaNimtzaim Birushalayim, tous les ustensiles qui sont trouvés à Jérusalem, c'est-à-dire qu'on trouve dans la rue. Alors, si c'est Derech Yerida Lebet Advila, si c'est dans la rue qui descend vers le bain rituel dans lequel on purifiait, dans lequel on trempait les ustensiles pour les purifier. Alors si c'est dans la rue qui descend vers ce bain rituel, Temim, alors on les considère comme étant impurs, car on dit qu'ils sont tombés de leur propriétaire lorsqu'il est parti les purifier, avant qu'ils ne se purifient, donc lorsqu'ils étaient encore impurs. Hadalma, donc de là j'apprends que tous les autres ustensiles que l'on trouve dans Jérusalem, Torim, ils sont purs, seulement ceux-là sont impurs, et tous les autres sont purs, on les considère comme étant purs. Et donc, ça signifie que même les assises sur lesquelles on a un doute, on les considère comme étant purs. Donc, pourquoi avons-nous besoin de le répéter encore une fois? Agma demande, Beitaimir, mais d'après ton raisonnement, même d'après ton raisonnement, on ne peut pas prendre une chose pareille. Pourquoi? Ima Seifa, regarde ce qui est écrit dans la fin de la Mishnah, Derech Aliyah Torim, que si on a trouvé ces ustensiles dans la rue qui monte du bain rituel dans lequel on purifiait les ustensiles, c'est-à-dire il y avait deux rues, une qui descendait et une qui montait, dans celle qui descendait, on amenait des ustensiles impurs, on les purifiait et on remontait par un autre chemin, et ce chemin remontait vers la ville. Alors si on l'a trouvé là-bas des ustensiles, on les considère comme étant purs, car sûrement ils reviennent, leur propriétaire les a perdus lorsqu'ils revenaient de les avoir purifiés. Donc de là j'apprends que seulement ceux qui sont là-bas sont purs. Hadalma, donc tout le reste de tous les autres dans tout Jérusalem, mais si on a un doute, on les considère comme étant impurs. Et donc, c'est tout à fait le contraire. Alors, et la Reisha Davka, mais c'est pas la Davka. Alors non, en fait, nous sommes obligés de dire que le début de la Mishnah qui nous dit que tous les ustensiles qu'on a trouvés en descendant, alors c'est seulement ceux qu'on trouve là-bas, mais tous les autres sont purs. Veseifa, et la fin de la Mishnah qui nous dit que les ustensiles qu'on a trouvés dans la rue qui monte, c'est l'Av Davka ceux qu'on a trouvés dans la rue qui monte. Mais même dans tout Jérusalem, alors ils sont purs. Oula Pouke Gazaïta, mais ça vient exclure les petites ruelles. C'est-à-dire qu'entre ces deux rues, celles qui descendaient et celles qui montaient, il y avait des petites ruelles. Et ces petites ruelles étaient utilisées des fois par les gens qui descendent, des fois par les gens qui montent. Et donc si on trouve un ustensile là-bas, on ne sait pas si il a été purifié déjà ou pas. Alors ces ustensiles là-bas seront, oui, on les considérera, oui, impurs. Mais dans tout le reste de Jérusalem, on les considérera comme purs. Maintenant, la Gemara revient sur l'enseignement que nous avons vu plus haut. Que si une aiguille a été trouvée dans la chair d'une bête d'un sacrifice qu'on a battu au temple, alors la viande est impure, mais le couteau et les mains du Kohen restent purs. Et nous avons dit... Pourquoi cette aiguille devient impure et rend impure la viande? Alors la Gemara a dit, ou les Rav d'Amar, et d'après Rav qui a dit, quelqu'un, par exemple, s'il a perdu une aiguille d'une personne qui était tmémet, qui était impure car il a touché un mort, et cette personne a donc touché cette aiguille, et donc cette aiguille est impure. Vekira Bebassar, et il a reconnu que c'est cette aiguille qui est dans la chair, alors c'est pour cela que l'aiguille rend impure la chair. Alors, Kevan de Amarmar, puisque le maître a dit, il est dit dans le verset, Bachalal Kherev, dans le cadavre d'une personne qui a été tuée par une épée. Et on a pris de cette façon du verset de s'exprimer, Kherev Areo Kechalal, que l'épée est considérée comme étant le cadavre. C'est-à-dire, bien que l'épée n'a fait que toucher le cadavre, malgré cela, c'est une Xerat Akatou, un décret de la Torah, que l'épée ne devient pas impure à un degré en moins, mais à la même impureté que le cadavre. C'est-à-dire, et de là nous apprenons une règle, que tous les métaux qui touchent une source d'impureté deviennent impurs au même niveau que la source d'impureté. Et donc si par exemple une épée a touché un cadavre, alors cette épée devient aussi avi avot atuma. Si une épée a touché un tmémet, une personne qui est impure à cause d'un cadavre, et donc qui est Avatouma, père de l'impureté, alors cet effet deviendra aussi Avatouma. Or, dans notre cas, une aiguille, c'est une aiguille, elle est faite en métal. Et donc, cette aiguille qui a touché le Tmémet, la personne qui a touché un mort, alors la personne qui a touché un mort est au degré de Avatouma, et donc l'aiguille qui a touché cette personne devient aussi au degré de Avatouma, du père de l'impureté. Et donc, puisqu'il est à ce niveau d'impureté de Avatouma, Adam ou Kelim Nami Litame, que ça rende impur aussi l'homme et les ustensiles, car Avatouma peut rendre impur l'homme et les ustensiles. Amaravash, et alors Ravashi a dit, Zotomet, cela dit, ce, en fait, de là nous apprenons, Ezrat et Azara, la cour du temple, dans laquelle on a abattu le sacrifice, Reshut Arabimi, c'est considéré comme étant un domaine public, Vabel et Safek Touma, Birshut Arabim, et donc, ça fait donc que c'est, il y a un doute d'impureté dans le domaine public, car c'est un doute, est-ce que ce couteau a touché l'aiguille ou pas? L'aiguille, c'est sûr qu'elle a touché la viande. Mais c'est un doute, est-ce qu'elle a touché le couteau ou pas? Est-ce qu'elle a touché les mains du Kohen ou pas? Et donc, puisque c'est un doute, dans le domaine public, « Kol safek touma birshut arabim », Chaque doute d'impureté dans le domaine public, Svekot Aor, dans le doute, on purifie. Alors la Gemara demande, ah, j'apprends de là que Ha Birshut Harit, que si ça avait été dans un domaine privé, par exemple, si on avait considéré la cour du temple comme étant un domaine privé, alors j'aurais dit que Svekot Ame, à cause du doute, je le considère comme étant impur. Car c'est comme cela que la règle nous dit. Kol Safek, chaque doute, si c'est dans de Touma, d'impureté, si c'est dans le Reshut Arabim, dans le domaine public, alors Svekot Taor, dans le doute, on le considère comme étant pur. Si c'est Birshut Hayachid, dans un domaine privé, Svekot Ame, dans le doute, on le considère comme étant impur. Et donc ici, c'est un doute, est-ce que le couteau a touché l'aiguille ou pas? Alors c'est pour cela, puisque c'est l'Azaret considéré comme étant un domaine public, c'est pour ça qu'on le purifie. Ah, si on l'avait considéré comme étant un domaine privé, on ne l'aurait pas purifié, on l'aurait rendu impur. Alors on me demande, Mir de Haïmachat, pourtant, cette loi de l'aiguille, c'est-à-dire que du couteau, c'est un doute, est-ce qu'il a touché l'aiguille ou pas? D'avoir chez un bodat, l'ichelou. C'est quelque chose qui n'a pas de raison pour lui poser une question. C'est-à-dire, ce couteau n'a pas de raison. On ne peut pas lui poser la question, est-ce que tu as touché ou pas? Et nous avons une règle qui nous dit, Vekol davar she'en bo da'at l'ishael, chaque chose qui n'a pas de raison pour lui poser la question, ben birshut arabim, ben birshut achid, que ce soit dans le domaine public, que ce soit dans le domaine privé, svekot tahor, s'il y a un doute, dans le doute, on le purifie. Et la raison de cette règle-là est la raison de la règle précédente que nous avons dit, qu'un doute d'impureté dans le domaine public est pur, dans le domaine public est impur, dans le domaine privé est impur. Alors Rashi nous explique que, car les doutes, la règle des doutes d'impureté, nous la prenons d'une femme sota, c'est-à-dire une femme qui s'est enfermée avec une autre personne que son mari, et on ne sait pas si elle a eu des relations avec cette personne ou pas. Alors dans le doute, nous la considérons comme étant impure, c'est-à-dire qu'elle s'est impurifiée. Et de là, nous apprenons, de même que la femme sota, c'était dans un domaine privé, elle s'est enfermée dans une pièce, pas dans un domaine public. Alors de même, nous apprenons que seulement les doutes qui sont dans le domaine privé sont impurs. Et de même que la femme sota, c'est une personne qui a suffisamment de raisons pour lui poser la question. On peut lui demander, t'es-tu rendu impur ou tu ne t'es pas rendu impur? Alors dans un cas pareil, alors seulement les choses sur lesquelles, à qui on peut leur demander la question, est-ce qu'elles sont devenues impures ou pas, et qu'ils ne savent pas, alors seulement ça, on peut les causer comme étant impures dans le domaine privé. Mais tout le reste, si on a un doute, ça reste pur. Et donc c'est pour cela que s'il y a un doute sur une impureté qui est née dans le domaine public, on la considère comme étant pure. Et s'il y a un doute sur une impureté qui est née sur un objet, par exemple, qui n'a pas de raison, on ne peut pas lui poser la question, est-ce qu'il s'est rendu impur ou pas, dans un cas pareil, on le considère comme étant pur. Et donc ce couteau, normalement, étant donné qu'il n'a pas de raison, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui poser la question, on devrait le considérer comme étant pur. Ogma répond, Mishum d'Ave Safek Touma, Abba Bide Adam, car ici, en fait, c'est quelque chose de spécial. C'est un Safek Touma, un doute sur une impureté, qui provient par l'intermédiaire d'un homme. C'est-à-dire, ici, étant donné que c'est le Cohen qui a abattu la bête, alors il y a un doute, est-ce que le Cohen a fait toucher le couteau et l'aiguille ensemble? Mais, et donc en fait, le doute provient de l'homme. Vehama Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan dit, Safek Touma Abba Bide Adam, s'il y a un doute sur une impureté qui provient par l'intermédiaire de l'homme.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.